Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui aujourd'hui, une fois de plus, est enregistré en différé, au cours d'ailleurs du week-end Pascal, ça ne montait pas. Donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient qu'on est eu pourront le faire par les moyens habituels, soit ceux permis par l'évolution des techniques, soit par une bonne vieille lettre manuscrite. Alors aujourd'hui, je vais consacrer une émission à une thématique qui m'est chère, à laquelle je voulais donc attendre, pour laquelle je voulais attendre le bon moment, à la fois l'interlocuteur qui convient, celui qui va nous en parler aujourd'hui, une vieille connaissance, vous allez le voir tout de suite, et puis aussi un petit peu le contexte du moment et l'actualité éditoriale. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau Antoine Dresse. Antoine, bonjour.
Bonjour Pascal, merci pour l'invitation.
Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs que tu es essayiste, auteur, donc philosophe de formation, et que surtout tu animes depuis déjà quelques temps une remarquable émission de philosophie politique sur YouTube avec ton hétéronyme Dégonone. Hein. Donc tu consacres très régulièrement donc des émissions extrêmement denses et fouillées sur des pans souvent peu connus de notre philosophie politique, hein, européenne au sens très large, hein, nationale au pluriel bon, pour certains d'entre eux, ainsi que des émissions d'entretien consacrées également à l'histoire de nos patries charnelles européennes. Donc voilà, une chaîne bien sûr vers laquelle je renvoie tous nos auditeurs. Tu es également responsable du pôle éditorial de l'Institut Iliade et tu es toi-même chargé aussi des sessions de formation dans le plat pays, hein, cher à Jacques Brel, donc, qui est ton pays de naissance, bien sûr, dans lequel tu es revenu depuis quelques mois, après un long périple qui t'a mené.
Une bonne année maintenant, même.
Et une bonne année, oui, comme le temps passe. Effectivement, on est toujours rattrapé par le temps. Donc, effectivement, tu es revenu dans ton pays d'origine, ton cher pays, ta chère terre d'empire, après un périple à l'est de l'Europe, notamment en Pologne. Alors, le sujet du jour, quel est-il? Mais il est celui qu'on commence à qualifier, même on qualifie depuis un certain temps, de lumière sombre, hein, de lumière sombre, lumière obscure, lumière noire, et surtout le phénomène qu'on appelle la néo-réaction, NRX en abrégé, NR étant orthographié en majuscule. Alors, l'actualité éditoriale du moment, l'actualité éditoriale très convenue, très universitaire, nous a fait part de la parution récente d'un ouvrage signé par un jeune chercheur en sciences politiques qui s'appelle Arnaud Miranda et qui a publié dans une coédition Gallimard Le Grand Continent un ouvrage intitulé justement Les Lumières Sombres, comprendre la pensée réactionnaire, un ouvrage d'ailleurs qui a été très vite épuisé, que toi et moi avons pu nous procurer, fort difficilement en tout cas dans les premières semaines, mais également sur le plan éditorial, on a vu des publications, des traductions d'ouvrages de ces auteurs, de ce phénomène, de cette constellation que tu vas nous circonscrire dans quelques minutes, hein, ces auteurs comme Curtis Yarvin ou Nick Land, notamment par les bons soins de Julien Rochdy, hein, qui a sorti deux recueils de textes de ces figures. Il y a aussi un site qui existe depuis déjà quelques années, un magazine électronique en ligne intitulé Rage Culture, hein, avec son initiateur qui signe sous le pseudonyme de Nîmes, qui aussi a traduit énormément de textes de cette constellation, cette nouvelle constellation un petit peu idéologique, qu'on va le voir, qui est née en grande partie sur Internet, et qui a publié lui-même un traité néo-réactionnaire, toujours publié par Julien Rochdy. Donc en fait, voilà, il y a quand même une interrogation sur ce phénomène qui aujourd'hui intrigue, interroge et qui doit, je crois, aussi nous interroger parce qu'effectivement, on va y trouver des pistes de réflexion, des pistes de débat qui ne peuvent que nous interpeller. Alors, je rappelle également, mais je le rappellerai en fin d'émission, que tu as consacré un long texte à ce phénomène dans le numéro 3 du cahier d'études pour une pensée européenne, donc le cahier du pôle études de l'Institut Iliade, qui est publié annuellement, et qui, au moment où nous diffusons cette émission, a été publié il y a quelques semaines, hein, lors de du dernier colloque de l'Institut Iliade, donc, qui s'est tenu donc, le 11 avril. Alors, comment pourrait-on situer d'abord ce phénomène et ensuite le définir par rapport justement au courant idéologique que l'on connaît de la droite américaine, on va dire, depuis une trentaine d'années?
Alors, tu as fait une très bonne présentation. Et alors, la question de la définition est effectivement, en fait, assez délicate. Parce qu'évidemment, nous nous retrouvons avec un nom, voire plusieurs noms, hein, tu l'as dit toi-même. Néo-réaction, lumière sombre. Lumière sombre, c'est le Dark Enlightenment. C'est une expression utilisée par Nick Land, qui ne sont pas d'ailleurs exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, néo-réaction est un terme qui, à ma connaissance, n'a pas été inventé par Curtis Irving lui-même, mais qui avait été désigné par certains de ses adversaires ou par des commentateurs politiques en disant que c'était un néo-réactionnaire. Curtis Irving disait lui-même préférer l'appellation néo-monarchiste ou néo-royaliste, mais il a accepté le terme néo-réactionnaire, alors que Lumière sombre est vraiment une création de Nick Land, déjà plusieurs années après les premiers écrits de Curtis Irving. Donc, pour que les gens aient quelques balises temporelles, il est vrai qu'aujourd'hui, nous nous intéressons de plus en plus au phénomène néo-réactionnaire, et ce, sans doute, dans le sillage de l'élection de Trump. Hein. Trump 2 suscite toutes sortes de questions sur l'avenir de la démocratie américaine, du modèle libéral démocratique américain, etc. Et on a pu noter une certaine dérive ou certaines critiques de la démocratie dans l'entourage de Donald Trump. On a pu noter donc, la présence de personnages influencés par cette dite néo-réaction. Donc, je pense que cela a suscité cet engouement pour ce courant néo-réactionnaire. Tu as cité le livre d'Arnaud Miranda qui effectivement a, je pense, dépassé déjà les 11 000 ventes, ce qui est colossal pour un livre quand même sur un sujet de niche, a priori. Et néanmoins, on commence à s'intéresser à la néo-réaction maintenant dans le grand public en Europe, mais c'est déjà quelque chose, j'allais dire de vieux, peut-être pas vieux, mais en tout cas, les premiers écrits néo-réactionnaires, ceux de Curtis Irving, datent de 2006-2007.
Voilà, il y a deux décennies déjà, hein, de débats intenses sur la grande toile. Quoi.
Exactement. En fait, nous découvrons quelque chose qui s'est déjà formé. Alors, je ne dirais pas figé, mais en tout cas, il y a déjà toutes sortes de tendances néo-réactionnaires qui se sont créées. Curtis Irving donc, a écrit son manifeste formaliste en 2007, je crois, qui était un court texte. Curtis Irving, qui était un ingénieur de la Silicon Valley, qui ne vient pas du tout du monde politique de droite ou conservateur, loin de là, au contraire. C'est même plutôt quelqu'un qui, je crois que ses origines, ça c'est à vérifier, mais sont plutôt à chercher du côté de Manhattan, dans une famille d'intellectuels juifs de gauche, etc. Et il a découvert le continent réactionnaire européen, après avoir été libertarien pendant très longtemps, influencé par Hayek, Ludwig von Mises, etc. Il a découvert les écrits de Carlyle en particulier et d'autres penseurs réactionnaires ou conservateurs européens. Et il a proposé une synthèse dont nous parlerons tout au long de cette émission. Et il a tenu un blog comme ça pendant des années, un blog qui s'appelle Unqualified Reservations.
Avec un drôle de pseudonyme d'ailleurs.
Avec un drôle de pseudonyme, effectivement, Mencius Moldbug. Et en fait, ces articles ont suscité de l'intérêt, effectivement, dans un petit comité, mais ce n'est pas du tout contradictoire. Il y a une volonté clairement élitiste chez Curtis Irving, parler directement à l'élite de la nation, aux gens les plus intelligents. Et il y a eu un philosophe britannique qui lui aussi venait plutôt des rangs de la gauche à l'origine, qui est Nick Land, qui lui a une vraie formation philosophique universitaire, qui avait fait une thèse sur Heidegger, qui était influencé par Deleuze, par exemple, et qui était le promoteur de l'accélérationnisme, et à l'origine un accélérationnisme de gauche, qui a découvert Curtis Irving, et qui a fait un shift, une réorientation de sa pensée vers une pensée néo-réactionnaire, et lui a proposé le terme de lumière sombre. Bon, là, je ne fais que dresser un peu les grandes lignes pour que les auditeurs aient une idée un peu générale de ce contexte. Mais j'ajouterais également à cela que nous parlons aujourd'hui donc de la néo-réaction des Lumières sombres, c'est le livre de Arnaud Miranda. Pour autant, il faut d'entrée de jeu mettre nos auditeurs en garde. Il ne s'agit pas d'une doctrine unifiée avec des dogmes que toutes les figures de ce courant partagerait. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une nébuleuse ou un laboratoire d'idées, quelque chose qui se construit encore maintenant dans les débats au sein de cette galaxie. Évidemment, on peut trouver quelques thèmes convergents. Mais par exemple, je refeuilletais un peu le livre d'Arnaud Miranda avant de commencer l'émission, et je vois qu'au début du livre, il cite cinq composantes qui sont partagées par tous les auteurs néo-réactionnaires. En fait, dès le début, j'ai moi-même un contre-argument, c'est-à-dire qu'il en cite cinq, je te les cite, hein, c'est à la page 30-31. Les néo-réactionnaires possèdent la conviction qu'il existe des hiérarchies naturelles dans la société. Ils partagent un profond pessimisme anthropologique, donc ils n'ont pas cet optimisme rousseauiste comme quoi la nature humaine est bonne, etc. Ils détestent absolument la démocratie, ça c'est vrai, mais alors c'est bien de la part d'Arnaud Miranda d'avoir insisté sur la détestation commune de la démocratie plutôt que le projet monarchiste, parce que Curtis Yarvin, lui, propose comme une espèce de néo-monarchisme libertarien, mais ce n'est pas un projet qui est partagé par tous les auteurs de ce courant,
Voilà,
Oscar
néo-monarchie
Morel
très
ou...
managériale, on le verra d'ailleurs, très particulier, très anglo-saxon, quoi.
Exactement, mais tous ne sont pas convaincus par sa solution. Il parle aussi de la revendication d'un droit à l'exit. Alors là, ça c'est un peu compliqué, on en
On en
reviendra un peu
reparlera
plus
alors, oui.
tard. C'est vraiment dans cette anthropologie libertarienne. Et alors le cinquième point, c'est un optimisme à l'égard de la technique. Et là, ce n'est pas exactement vrai, puisque même s'il y a une dimension effectivement très moderne ou postmoderne dans la néo-réaction, rien que dans ses formes d'expression, c'est sur Internet, en ligne, etc. Donc ce n'est pas des vieux conservateurs rabougris dans des bibliothèques, c'est vrai. Mais Curtis Yarvin, lui, se décrit comme un techno-pessimiste. Or, Curtis Yarvin est une des figures majeures du courant et pour cause. Donc, si Curtis Yarvin lui-même se déclare techno-pessimiste, c'est déjà difficile de dire que la néo-réaction est intrinsèquement un courant futuriste. Il y a des tendances futuristes, accélérationnistes, en particulier chez Nick Land, mais il y a des gens plus sceptiques sur cette question comme Curtis Yarvin. Donc voilà, tout ça pour dire que la néo-réaction est un sujet très vaste, évidemment, dans la discussion, nous allons être obligés de radicaliser certaines thèses, mais il faut que les auditeurs gardent en mémoire qu'il y a quelque chose de vivant dans ce courant et que ce n'est pas encore figé. Alors, tu m'interrogeais aussi sur la place de la néo-réaction dans l'univers de la droite américaine au sens large. En fait, très rapidement, je dirais que ce qui a fortement marqué le renouveau de la droite en Amérique à partir des années 2000, ça a été d'abord une tendance qu'on pourrait qualifier de populiste, c'est ce qu'on a appelé l'alt-right, dénonciation des élites, etc., avec des figures comme Spencer, Richard Spencer,
Richard Spencer, oui.
exactement, autour desquels gravitaient aussi ce qu'on pourrait appeler les nationalistes blancs, etc. Et le moment le plus médiatique des actions de l'alt-right, c'est la fin de Trump 1 avec la prise du Capitole, où ça a été vraiment l'action alt-right par excellence, mais qui a été un échec. Ça n'a abouti à rien, et ça a pu conduire à une refonte de la droite en Amérique et à l'ouverture d'autres options. Et Arnaud Miranda en cite deux en particulier. Il y a ce qu'il appelle le post-libéralisme et la néo-réaction. Le post-libéralisme, qui est un courant catholique, néo-catholique, qui considère que le libéralisme touche à sa fin, et il y a la néo-réaction. Et la grande différence de la néo-réaction par rapport à l'alt-right, c'est justement sa dimension élitiste. C'est-à-dire que l'alt-right misait sur la révolte du peuple contre les élites corrompues, les élites traîtresses, tout ce que vous voulez, alors que la néo-réaction fait le pari inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut abolir la démocratie. Le problème est dans la démocratie, le problème est justement dans cette croyance que les masses peuvent se gouverner elles-mêmes. Non, il faut une élite capable, qui a les moyens de diriger, et donc c'est cette élite que la néo-réaction entend convaincre.
Voilà, donc il y a justement bon, cette confluence du libertarianisme et de la néo-réaction, on a aussi une première figure qui est déjà bon, qui précède un petit peu Yarvin dans ses premières expressions en 2006-2007, c'est Hans-Hermann Hoppe avec son fameux livre Démocratie, le Dieu qui a échoué, qui a été publié, je crois, en 2001, où déjà
Oui,
bon.
je ne suis plus sûr de la date, mais je crois que ça doit être 2001, effectivement. Hans-Hermann Hoppe, qui lui est un Allemand, comme son nom l'indique, mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie. Alors, école autrichienne d'économie qui trouve aujourd'hui son antenne principale aux États-Unis avec l'Institut Ludwig von Mises, ça ne s'invente pas, qui a été fondé, je crois, par Murray Rothbard, qui est un disciple américain de Ludwig von
Oui, qui
Mises.
est souvent cité d'ailleurs aussi, hein, lorsqu'on évoque la théorie.
Effectivement,
Ouais.
oui, tout à fait. C'est un personnage très important pour la néo-réaction et pour le courant libertarien en général. Hans Hermann Hoppe est un libertarien, et est un libertarien qui a poussé les principes libertariens jusqu'à la critique de la démocratie. Car il notait quelque chose qui lui paraissait un peu intriguant, c'est que même Ludwig von Mises ou Murray Rothbard, finalement, avaient quelques sympathies pour le régime démocratique. Et en fait, Hoppe, lui, a voulu montrer que la démocratie n'était pas du tout compatible avec le libéralisme, avec la liberté radicale telle que lui la défend, et qu'au contraire, la démocratie conduit à une forme de socialisme, de communisme mou, etc. Et il a écrit ce livre qui est très intéressant, qui est La démocratie, le dieu qui a échoué, comme tu as dit, dans lequel il montre. Bon, je vais simplifier à outrance, évidemment, mais je vais directement à la thèse qui va intéresser Curtis Irving. En fait, dans toute la première partie du livre, il va comparer la pratique du pouvoir monarchique, donc d'avant 1914, et la pratique du pouvoir sous la démocratie. Et il va montrer qu'en fait, à tout prendre, même d'un point de vue libéral, libertarien, la monarchie est préférable à la démocratie. Parce qu'en fait, la démocratie a toutes sortes de vices décivilisationnel. La démocratie marche sur un temps très court. Pour obtenir le pouvoir en démocratie, on est constamment à essayer de quêter le soutien de telle ou telle faction de la population en promettant toujours davantage. Donc finalement, on dilapide le capital national et la démocratie se sclérose de plus en plus avec une armature bureaucratique totalement infini, alors que dans la monarchie, il y a le monarque qui est propriétaire du royaume, et en tant que propriétaire, il est de son intérêt de faire fructifier le capital national, il doit le transmettre à son fils, à son héritier, etc. Et donc, à tout bien prendre, la monarchie est préférable du point de vue de Hoppe à la démocratie. Néanmoins, on dit parfois un peu rapidement que Hoppe est monarchiste, ce n'est pas le cas. Hoppe reste un libertarien, et il est pour une forme d'anarcho-capitalisme. Simplement, si on doit comparer la monarchie et la démocratie, alors la monarchie est préférable. Et en fait, ça a été une révélation pour Curtis Irving. Curtis Irving, qui est un libertarien, comme je l'ai dit, il a lu Hoppe et il a découvert aussi la tradition néo-réactionnaire. Et donc la tradition réactionnaire, la tradition, ce que j'ai appelé moi le réalisme politique, par exemple, avec Machiavel, etc. Et une des leçons qu'il a retenues de cette tradition, avec Machiavel, avec Bertrand de Jouvenel aussi, par exemple, c'est que le pouvoir est éternel. Le pouvoir ne disparaît jamais. Il y a toujours du pouvoir dans une société. Et l'approche anarcho-capitaliste a au fond quelque chose d'utopiste, car elle croit qu'en abolissant l'État, déjà comment abolir l'État, c'est une grande question, mais
Oui,
en
c'est une
abolissant
question.
simplement l'État et en laissant les gens s'auto-organiser, eh bien en fait, on serait dans une forme de société libre et parfaite avec une concurrence harmonieuse, etc. Or, ce que Curtis Irving va comprendre, c'est qu'il y a toujours du pouvoir. Et donc, s'il y a toujours du pouvoir, au fond, cherchons à le maîtriser. Et donc, lui, il va lire Hoppe, il va se dire, il va voir l'alternative, il va voir que la monarchie est préférable à la démocratie, et lui va franchir le Rubicon que Hoppe ne voulait pas franchir, et il va dire, bien, on est obligé d'avoir une forme de pouvoir, bien moi je choisirais la monarchie. Alors une forme de monarchie un peu différente, hein, managériale, etc. Mais il va choisir l'option monarchiste, qui là est évidemment très intéressante et qui est une rupture dans la tradition anglo-saxonne américaine, évidemment.
Surtout américaine, hein. Puis on
Surtout
sent
américaine.
une démarche vraiment pragmatique, voire utilitariste, hein. On est vraiment dans ce filon, hein, dans ce courant, hein, qui demeure en tout cas dans l'univers anglo-saxon, quoi.
Totalement, et c'est pour ça que c'est un objet paradoxal, parce qu'à la fois pour moi la néo-réaction, donc déjà la néo-réaction est pour moi un produit vraiment anglo-saxon. C'est un produit qui est ancré dans le monde anglo-saxon, mais Il en constitue à la fois la négation et l'aboutissement, si je puis dire.
Ouais.
La négation, parce que Curtis Irving va faire tout un travail de réévaluation historique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il va relire l'histoire officielle, hein, pour dire les choses très simplement, telle qu'on la raconte depuis les débuts de l'âge moderne. Alors, dans le monde anglo-saxon, justement, l'événement fondateur le plus important, ce n'est pas la Révolution française, comme chez nous, 1789. C'est plutôt ce qu'on appelle la glorieuse révolution anglaise.
De 1688, voilà. Avec le
Exactement,
départ de Jacques de
1688.
Stuart, hein, qui était tenté à la fois par un modèle absolutiste français et aussi par un rétablissement du catholicisme comme religion tolérée, sinon à nouveau officielle en Angleterre, et
Exactement,
qui est donc
exactement.
voilà, qui a été vaincu et qui est parti en exil en France, quoi. Malgré bon, certaines tentatives de reprendre le pouvoir avec notamment le Bonnie Prince Charlie et le
Oui, oui,
désastre
oui.
de Culloden donc en 1857 qui a abouti à la fin du mode de vie des clans écossais. Bon, revenons
Oui,
un peu
tout à fait.
à notre
Mais c'est bien, donc
réaction.
c'est bien d'avoir mentionné ce camp Stuart, parce qu'il va en être brièvement question ici. Effectivement, donc il revient sur cette histoire. Et donc, dans l'histoire officielle progressiste anglo-saxonne, ce qu'on appelle la conception Whig de l'histoire, chez nous, on dit simplement c'est le progressisme, en fait, hein, c'est la conception progressiste
Voilà,
de l'histoire,
opposé aux Tories, hein,
aux
voilà.
Tories, exactement. En fait, pour dire les choses très simplement, on a un peu cette idée que il y avait, comme tu l'as dit, le roi Jacques II, tentation absolutiste, il y a un renversement du roi, on en finit avec l'absolutisme, et donc là maintenant c'est la liberté civile dans la société, c'est le pouvoir des parlements qui maîtrise le pouvoir, et on va vers toujours plus de démocratie jusqu'à l'époque moderne. Et en fait, Curtis Irving va contester cette vision de l'histoire, va refuser la téléologie progressiste pour dire tout simplement que c'est une histoire écrite par les vainqueurs. Bon, là, il n'y a rien de révolutionnaire chez
Oui,
Irving.
grand classique, quoi, en quelque sorte.
C'est le grand classique. Simplement, il dit, voilà, c'est une réécriture de l'histoire, une réinterprétation de l'histoire du point de vue des vainqueurs. Mais si on regarde d'un point de vue purement fonctionnel ce qui s'est passé, au lieu de se dire c'est un grand principe de liberté qui s'inscrit dans l'histoire, etc., si on se dit, mais qu'est-ce qui arrive à la nature du pouvoir? Qu'est-ce qui arrive au pouvoir à ce moment-là en 1688? Eh bien, Curtis Irving va dire que ce qui est arrivé, c'est qu'on est passé d'un centre unique de commandement, donc le roi Stuart, à un pouvoir morcelé. Un pouvoir morcelé dans les mains d'un parlement, d'un roi aux mains bridées constitutionnelles, etc. Et alors, on peut se dire que c'est une bonne ou une bonne évolution, mais il ne faut pas y voir la fin du pouvoir ou l'accomplissement de la liberté. Il faut y voir un pouvoir qui se morcelle, qui se divise et qui devient en fait de moins en moins efficace et qui devient diffus. Et donc, Curtis Irving, à partir de là, va adopter le point de vue des perdants, c'est-à-dire des jacobites, ceux qui défendaient Jacques de Stuart. Donc il va se présenter. Il y a quelque chose d'un peu provocateur chez Irving, à se dire au XXIe siècle, moi je suis néo-jacobite. Évidemment, il ne veut pas dire qu'il veut restaurer les Stuarts sur le trône d'Angleterre, mais il se place de leur côté. Donc aussi, parmi toutes les grandes références intellectuelles de Curtis Irving, eh bien, il va mobiliser quelqu'un qui est très peu connu chez nous, c'est Robert Filmer. À l'époque, le grand philosophe de 1688, de la révolution des droits civiques anglais, c'est John Locke. L'adversaire de John Locke, c'était Robert Filmer, le théoricien patriarcaliste, c'est-à-dire du pouvoir absolu du roi, qui pensait que le pouvoir, dans son origine la plus primitive, venait du père de famille, tout simplement. Et en fait, le pouvoir est quelque chose d'éternel, il se transmet de génération en génération, et le roi est le père de la nation, tout simplement. Et donc, là encore, bien Curtis Irving va défendre, c'est ça qui est amusant, il y a toujours quelque chose d'un peu trollesque, comme on dit aujourd'hui, les trolls sur Internet, c'est-à-dire qu'il va défendre la monarchie absolue de droit divin, tout en étant athée. On n'a pas besoin de Dieu pour défendre la monarchie absolue de droit
Ouais.
divin.
C'est ça qui est particulier, oui, qui montre que d'ailleurs,
C'est
voilà,
très...
on peut pas faire d'amalgame entre justement ce courant néo-catholique ou même néo-chrétien, hein, de manière générale, hein, qui joue un rôle important, enfin qui tient une place non négligeable dans l'électorat MAGA, donc
Oui.
de Donald Trump. Donc, mais c'est tout à fait différent. On voit que parmi tous ceux qui sont peut-être plus ou moins influencés par la religion chrétienne, quelqu'un qu'on n'a pas, je crois, cité, c'est Peter Thiel.
Oui.
Peter Thiel, on prononce Thiel d'ailleurs, je crois.
Oui, Till,
Ouais.
oui,
Peter
Peter Till.
Thiel, dont on reparlera peut-être rapidement tout à l'heure.
Effectivement, moi, sur la question du christianisme, on pourra en parler, mais effectivement, la néo-réaction est beaucoup moins chrétienne que le courant MAGA ou le courant post-libéral pour cause. Il y a des gens franchement hostiles au christianisme comme Sprandrel. Pour ce qui est de Curtis Yarvin, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas souvenir d'un texte de sa part qui serait vraiment spécifiquement lié sur le christianisme en tant que tel. Par contre, Curtis Yarvin considère que l'égalitarisme, que la pensée démocratique vient du calvinisme, vient du néo-calvinisme anglo-saxon, etc. Donc il est très critique de cette tradition. Et donc certains catholiques américains peuvent se retrouver dans Curtis Yarvin, dans sa critique du calvinisme, en sauvant le catholicisme par rapport au calvinisme.
Notamment un néo-catholique nommé G. Davens, en particulier.
Exactement.
Voilà, bravo.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Miranda dit que G.G. Vance est un peu la croisée du post-libéralisme et de la néo-réaction. C'est toujours un peu difficile, évidemment, de dire ce que les décideurs politiques ont comme influence, mais on voit des gens comme ça
Ben lui ne
autour
l'a
de
pas
lui.
caché, en tout cas, Vance. Il a
Non, non, il a même
carrément,
déjà
il a
fouetté Curtis
déclaré
Yarvin.
qu'il a assumé cette influence, quoi,
Oui. Bien
publiquement.
sûr.
Alors, je crois que... Oui, vas-y,
Non, je
continue.
t'en prie. Je t'en
Non,
prie, je t'en prie.
j'allais dire que bon, ce serait intéressant de revenir dans ce certain concept que Yarvin développe dans un lexique qui lui appartient, qui est très particulier. On pourrait commencer par celui de cathédrale, voilà, qui n'a rien à voir,
Effectivement.
bien sûr, avec ce que nous entendons sous ce terme communément.
Bien sûr. Effectivement, c'est probablement le concept le plus important de Yarvin. Et si on doit chercher des points communs, des points de doctrine communs à toutes les figures néo-réactionnaires, il y a probablement la critique de la cathédrale. Je pense que tous les néo-réactionnaires s'accordent sur l'existence de cette cathédrale dont parle Yarvin et considèrent qu'il faut abattre la cathédrale. Alors, la cathédrale, qu'est-ce que c'est? J'ai dit donc qu'il y avait une histoire officielle, Whig, dont Curtis Yarvin prenait le contre-pied. Mais en fait, d'où vient cette histoire officielle? Qui l'a produit? Ça va être la grande question de Yarvin. Et alors, dans un de ses textes, il va livrer une sorte d'expérience de pensée, comme il le fait souvent. Il va dire, imaginez trois types de sociétés. Société type 1, type 2, type 3. Bon, je vais aller très vite. La société de type 1, c'est la société qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier la de société ouverte, hein, selon l'expression de Karl
Karl Popper,
Popper.
ouais.
Voilà, c'est la société telle qu'elle est rêvée par les libéraux, c'est-à-dire une société de libre concurrence à la fois économique, mais aussi dans le marché des idées, si tu me permets cette expression un peu laide. C'est-à-dire que chacun serait libre absolument de dire tout ce qu'il pense. Toutes les universités sont en concurrence les unes avec les autres. On a des tendances tout à fait diverses qui s'expriment dans les journaux, etc. Ça, c'est la société ouverte. La société de type 3, à l'inverse, ce serait la société dite totalitaire. En tout cas, c'est une société dans laquelle le pouvoir impose le récit officiel à l'ensemble de l'intelligentsia, des universités ou des médias. Évidemment, quand on parle d'un tel régime, on pense immédiatement à l'URSS ou à l'Allemagne nationale socialiste. On a Goebbels qui téléphone au réalisateur de films, à tel recteur d'université pour dire ben, il faut pas parler de ça, il faut parler de ceci, il faut parler de ça. Bon, voilà les deux sociétés un peu antinomiques, caricaturales. Je n'ai pas encore cité la société de type 2, mais déjà, nous dit Yarvin, si on compare notre société, la société dite libérale démocratique occidentale dans laquelle nous vivons, correspond-elle à l'une de ces deux sociétés? Bon, manifestement, ce n'est pas une société de type 3, à moins de croire à une théorie du complot qui nous dirait qu'il y a un Goebbels caché. A priori, il n'y a pas d'équivalent à Joseph Goebbels qui appelle le recteur de l'université de Harvard, de la Sorbonne, etc., pour dire qu'il faut être de gauche, progressiste, etc. Donc, nous ne vivons pas dans ce régime totalitaire. Mais est-ce une société de type 1? Mais pas vraiment non plus, nous dit Harvey, puisque de toute évidence, il ne règne pas une grande diversité d'opinions dans les journaux ou dans les universités. La plupart des universités dispense le même discours idéologique. Les différences qu'il peut y avoir entre Harvard ou Stanford, par exemple, c'est que l'une est peut-être un chouïa plus à gauche que l'autre, un chouïa plus progressiste. Mais il n'y a pas vraiment de différence fondamentale. Pareil dans les journaux, il y a des lignes rouges que les gens ne franchissent pas, et tout va un peu dans le même sens. Donc, c'est qu'il doit y avoir un deuxième type de société, la société petite 2, c'est celle dans laquelle nous vivons, et en fait, c'est une société dans laquelle le pouvoir a été capté par une espèce de complexe clérical intellectuel que Yarvin appelle la cathédrale. Alors qu'il ne dispense pas de manière dogmatique et de manière autoritaire ce qu'il faut penser, mais qui fonctionne comme une espèce de grande boucle de rétroaction où les gens se cooptent d'eux-mêmes, disent, font des professions de foi progressistes pour leur propre avancement. Et en fait, c'est un système autonome qui s'auto-entretient à la fois dans les journaux et dans les universités, qui fonctionne avec le signalement de vertu, etc. C'est-à-dire qu'on critique quelqu'un d'autre en disant que c'est un conservateur, que c'est un méchant nationaliste, un fasciste, tout ce que vous voulez. Et quand on fait cela, on se pare de vertus progressistes, de vertus de gauche, et donc on gagne des points de respectabilité. Et c'est ça, en fait, le mécanisme de la cathédrale.
Et tu
Il y a une
sais,
nouvelle caricature.
au moment où tu me parles, ça me vient vraiment à l'idée. Je me dis que la thèse générale que Guillaume Feuille avait développée dans son premier grand ouvrage, Le système à tuer les peuples, revient pratiquement à ça, en fait. Parce qu'il disait, c'est comme une hydre, enfin, c'est à la fois une hydre, et comme tu dis, il y a des phénomènes de rétroaction, mais tu coupes une tête, ben, ça servira pas à grand-chose, quoi. Une tête de tête, donc, en fait, ça se reproduit, ça s'auto-reproduit, ça s'entretient, ça auto-réagit. Hein, dans différents mouvements, et ça m'évoque véritablement ce système d'ailleurs qui a été rappelé, parce que bon, le livre a été réédité récemment. Il y a aussi un texte de Guillaume Fay, L'Occident comme déclin, qui a été réédité en français d'ailleurs, voilà, par les sponsors de Stéphane Ouvaille, que j'ai reçu ici, et qui rappelait justement cette vision systémique, hein, qui, bon, pour Guillaume, bien sûr, c'est beaucoup plus vaste que ce que Yarvin appelle la cathédrale. Donc, il parle principalement de tout cet agrégat institutionnel, hein, qui, voilà, qui va du monde de la presse, c'est des chaînes télé, en passant par le monde de l'enseignement et supérieur en particulier, et toutes les intelligences en général. Mais c'est assez frappant de voir que.
Effectivement, c'est intéressant que tu cites le Guillaume Fay de la première période, justement, parce que je me souviens maintenant en t'écoutant qu'il y avait une critique de l'archéofuturisme par Nîmes, Nîmes qui est un des représentants, on peut dire, de la néo-réaction en France avec le site Rage Culture, comme tu l'as dit au début. Il était assez critique de l'archéofuturisme, il avait fait toute une critique de l'archéofuturisme d'un point de vue néo-réactionnaire, et je me souviens qu'il avait ajouté un addendum à la fin de cet article quelques années après avoir lu L'Occident comme déclin, justement, et en trouvant en fait beaucoup de ponts entre le faille de l'Occident comme déclin et la pensée néo-réactionnaire de Yarvin et Nicklandt. Alors qu'on aurait plutôt tendance généralement à dire vite que l'archéofuturisme est proche de la néo-réaction, mais pour Nîmes, c'est plutôt le premier faille. Bon, il
Tout à
faudra en
fait.
discuter avec
Sans
lui.
bon, on a souvent discuté entre nous que bon, l'archéofuturisme, bien sûr, est un ouvrage marquant, mais on est déjà dans une inflexion, un petit peu, je veux dire, intellectuelle par rapport au premier Guillaume. En tout cas, bon, moi, c'est mon opinion personnelle, hein, pour avoir vraiment bon, bien fréquenté un petit peu, bon, cette œuvre, m'être reconnu de cette sensibilité, avoir connu Guillaume. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir qu'il y avait des aspects visionnaires, hein, donc dans beaucoup de concepts développés par celui que je qualifie de jeune Guillaume, donc avant 1987 en tout cas.
Oui, je suis vraiment assez d'accord. Il y aurait d'ailleurs probablement une émission à faire en parallèle entre Guillaume Fay, etc., et la néo-réaction. Mais bon,
Bon,
ce sera pour
j'y
une autre
pense,
fois peut-être.
on verra ultérieurement, c'est une très bonne idée.
Mais alors, cette cathédrale, justement, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat, une fois que Yarvin a fait ce constat, c'est de là qu'il va en arriver à sa critique de la démocratie et sa valorisation de la monarchie, en vérité. Puisque si la cathédrale, en fait, capte le discours de vérité, cela fausse les jugements du pouvoir. Alors je m'explique. Généralement, si on fait une comparaison entre démocratie et dictature, par exemple, on dira à juste titre que la dictature, le dictateur, au fond, finit par s'enfermer dans sa tour d'ivoire et à perdre pied avec la réalité, à se déconnecter du réel, parce que il n'a plus accès à la réalité que ce que ses conseillers lui disent pour lui complaire. Et donc, la dictature finit bien souvent dans une espèce de bulle où le dictateur devient mégalomane, etc. Et la démocratie aurait cet avantage sur la dictature, si on pense justement en boucle de rétroaction, de recevoir des feedbacks beaucoup plus réguliers. Parce que d'un point de vue théorique abstrait, eh bien, on a un gouvernement qui essaye de mettre en œuvre son programme pendant une période courte, de 5 à 7 ans. À l'issue de cette élection, à l'issue de ce mandat, il y a une nouvelle élection, et l'élection nouvelle permet au peuple d'approuver ou de désapprouver l'action du gouvernement, ce qui est une manière de dire on approuve ta politique ou on la refuse. Or, dans les faits, nous dit Erwin, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque en fait, le peuple, la pensée de la population, la pensée des électeurs est remodelée par le discours institutionnel de la cathédrale qui produit de l'orthodoxie. La cathédrale empêche toutes sortes, elle ferme la voie à toutes sortes de possibilités, à toutes sortes d'autres politiques. Et donc le feedback est tout aussi faussé que dans une dictature, et même peut-être pire encore. C'est-à-dire que la cathédrale crée une orthodoxie qui va plier le pouvoir, d'une certaine manière. Et c'est ce qui conduit la démocratie elle-même à être de plus en plus déconnectée du réel et à être dans une sorte de fuite en avant gauchiste, puisque, comme le dit Yarvin en faisant référence à Lovecraft, Cthulhu nage à gauche, donc le grand monstre lovecraftien Cthulhu, il nage à gauche, la société tout entière est portée par un mouvement sinistre au gire, et c'est dû à cette cathédrale qui fonctionne comme une énorme boucle de rétroaction la pensée progressiste. Et donc c'est ça qui est l'origine de la critique de la démocratie chez Erwin, retrouver un accès beaucoup plus direct du pouvoir à la réalité.
Voilà, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, de toute façon. Hein, qui, voilà,
Bien sûr, alors ça c'est un peu la critique qu'on peut faire, c'est-à-dire que nous-mêmes on peut se dire mais que Yarvin finalement n'a pas inventé grand-chose, c'est-à-dire qu'il a repris et qu'il a réélaboré des pensées qui ont pu déjà être développées en Europe. Néanmoins, quand je dis ça, ça peut paraître une critique, mais pas du tout. Enfin, bon, déjà, comme disait Gide, tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter.
Exactement.
C'est une phrase que j'aime beaucoup. Et puis, il y a quand même un génie yarvinien, qu'on apprécie ou non le personnage, dans cette capacité à adapter tout ce contenu doctrinal réactionnaire européen, qui bien souvent date du 19e siècle ou du 20e siècle, à la réalité américaine du 21e siècle et à le rendre audible pour un tout nouveau public. Donc, rien que pour ça, évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement stimulant et même de stimulant pour nous.
Complètement. Et surtout étonnant de voir ça dans un contexte américain. C'est vrai qu'au premier abord, entendre parler de néo-monarchisme bon, dans un contexte américain, alors comment on sait dans quelles conditions et quelles ont été les finalités de la révolution américaine, cette première révolution atlantique, et qui a précédé la nôtre. Donc c'est toujours surprenant, d'un premier point. Bon, sans parler aussi du fait, et ça c'est ce qui surprend en général bon, les détracteurs intrigués de cette néo-réaction. Hein, on l'a vu, bon, il y a l'ouvrage de Miranda, bon, qui est quand même de facture clairement universitaire, bien sûr. Ce n'est pas un adhérent de cette vision du monde, c'est évident. Il y a tout le travail qui a été fait aussi par le site du Grand Continent. Hein. On voit qu'il y a, bon, il y a le fait aussi que ça émerge à la fois bon, en grande partie de la Silicon Valley, donc qu'on décrit communément comme un milieu ultra-progressiste. Et deuxièmement, bon, en fin de compte, c'est un phénomène qui est issu de la grande toile, quoi. Hein, de blogs, de sites de débats, de controverses, bon, et surtout bon, qui ont déjà 2 décennies d'ancienneté, quoi. Donc c'est vrai que ça surprend, c'est presque comme un OPNI, un objet pensant non identifié, quoi, hein, qui arrive un petit peu comme ça, là, bon, comme quelque
Ah,
chose
c'est évident
venu
que dans ce
d'ailleurs.
cas, par exemple, quand on est davantage habitué à des essais très rigoureux, avec une forme universitaire, etc., on tombe sur les écrits de Curtis Yarvin. Dans un premier temps, on est complètement déboussolé, puisque là, c'est écrit au fil de la pensée, de manière tout à fait informelle. Il prend son temps pour écrire, c'est pas toujours très clair. Donc, non, ça c'est vraiment très perturbant, effectivement.
Alors justement, dans la définition des écrits, Yarvin avait prôné ce qu'il appelle une forme de passivisme par rapport, bon, au contraire, à vouloir inonder la toile, bon, de thèses radicales et hautement provocatrices. Lui disait plutôt, bon, il faut faire profil bas et viser avant tout, bon, la lente mais sûre diffusion, bon, de thèses alternatives qui visent avant tout à toucher une élite. Pourrais-tu rapidement revenir sur ce point qui pourrait surprendre? On voit aujourd'hui, au contraire, il y a bon, une suractivité des blogueurs et influenceurs en tout genre, hein, qui au contraire bon, vont souvent dans le sens contraire. Et là, il avait mis en avant cet impératif vis-à-vis de tous ses interlocuteurs. Hein.
Oui, tout à fait, mais je crois que ça rejoint déjà un peu ce que j'avais dit au début, donc ce contraste avec l'alt-right, qui, je pense, du point de vue d'Yarvin, ferait la critique que tout ça est une forme de romantisme, si on veut être gentil. C'est une forme de romantisme politique.
On en reparlera.
Oui, effectivement, je n'y avais même plus pensé, pour tout dire. Une forme de romantisme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui rêvent du grand soir, on renverserait le gouvernement, déjà il faut le renverser, ce qui n'est pas une mince affaire, et puis quoi en fait? Non, je pense que chez Yarvin, il y a vraiment toute cette idée qu'il faut patiemment tisser sa toile, construire un réseau, et en fait, il y a aussi cette idée chez Yarvin, alors qui peut paraître aussi une forme de romantisme, mais là, pour le coup, je crois que ça ne l'est pas du tout, une forme de tout ou rien, au sens où ce n'est pas par un excès de radicalité, mais c'est une demande de cohérence, c'est-à-dire que s'il est question de renverser le régime, on ne peut pas renverser le régime libéral-démocratique occidental à moitié. Il faut le faire complètement. Et là, il y a une formule qui est un peu amusante, il dit, on ne peut pas restaurer 50% des Stuarts. Soit on a restauré les Stuarts, soit on les a pas restaurés. Et on ne peut pas faire quelques petites mesures à la marge pour améliorer un chouïa les compétences, la force de l'exécutif, etc. Tant qu'il y a la cathédrale, il faut annihiler la cathédrale ou on ne peut rien faire. Donc c'est pour cela que là, il adjurait aussi la présidence Trump à aller jusqu'au bout. Parce que,
D'accord.
en fait, elle perd du temps dans cette tergiversation, etc. Et en ce sens, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très juste chez lui. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans ce phénomène néo-réactionnaire, c'est au fond le symptôme, quoi qu'on pense du fond de cette doctrine, c'est le symptôme que le modèle libéral démocratique américain touche à sa fin. Tout le monde le sent, à gauche comme à droite. Et ce que j'aurais tendance à penser avec Garvin, c'est que soit c'est la droite au sens très large qui abolit la démocratie américaine, soit c'est la gauche. Et je pense que si le mandat Trump 2 ne va pas jusqu'au bout, eh bien le retour de bâton sera extrêmement fort.
Oui, bon, on avait déjà eu des prémices là avec sous l'ère Biden déjà, hein, avec
Bien sûr.
Black Lives Matter et compagnie, quoi. Hein, on avait vu bon, à quoi ça menait de cette manière. Alors malheureusement, l'heure tourne inexorablement, mon cher Antoine. Hein, il nous reste une quarantaine de minutes. Je voudrais qu'on avance un petit peu pour aborder ce qui est intéressant dans justement et que tu as signalé dans l'œuvre de Nick Land, en particulier cette notion d'accélérationnisme. Mais avant. Un bobino pour notre radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bien, nous reprenons l'antenne. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du libre journal Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui toujours l'immense plaisir de recevoir Antoine Dresse, alias Egonon, pour évoquer donc un phénomène qui fait parler de lui depuis quelques mois dans les sphères médiatiques, le phénomène de la néo-réaction, aussi intitulé Lumière sombre, à travers ses principaux représentants, dont nous avons beaucoup parlé des thèses de Curtis Yarvin. Donc avant ce bobino, nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur celle de Nick Land, ce philosophe britannique qui, comme Antoine va nous rappeler, est de formation avant tout philosophique, avec aussi un concept qui commence timidement à faire fleurir dans certaines sphères la question de l'accélérationnisme.
Oui, effectivement. Alors avec Nick Land, on change assez fortement d'univers mental. Avec Yarvin, je pense que les auditeurs l'auront compris, on est vraiment dans la discussion du fonctionnement du pouvoir. Il y a quelque chose de très institutionnel. Alors que Nick Land est plutôt, on pourrait dire, une forme presque de métaphysicien de la modernité. Il s'intéresse évidemment aux choses politiques, mais de manière beaucoup moins étendue que Curtis Yarvin. Alors, pour être synthétique, pour essayer d'être clair, parce que Nick Land est un auteur quand même plus complexe que Curtis Yarvin.
Ah oui, là, j'ai commencé à le lire, là, ces textes dans le recueil Xénosystème. Oui,
Oui,
il faut
édité
s'accrocher.
par les... Effectivement, il faut s'accrocher, c'est plus complexe,
Ouais.
d'autant que dans ce livre, c'est un recueil de petits textes,
Ouais.
et très souvent, il y a quelque chose de très élusif, il part du principe qu'on a déjà compris ce dont il parle, donc c'est un auteur un peu plus hermétique. Donc, pour comprendre l'accélérationnisme de Land, en fait, il faut comprendre ce qu'est le capitalisme pour Nick Land, et en quoi le capitalisme est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Bon, pour dire les choses assez platement, pendant l'essentiel de l'histoire humaine, de la préhistoire à la révolution industrielle, avec une petite accélération précisément qui commence avec la révolution néolithique, les sociétés humaines pouvaient être plus ou moins bien gouvernées, plus ou moins stables, plus ou moins civilisées, tout ce que vous voulez, mais elles restaient toujours prises dans une forme de plafond. C'est-à-dire que la production économique, augmentait difficilement plus vite que la population. Donc, dès qu'on améliorait un peu les techniques, la production, etc., mais la population finissait par croître et le gain matériel se dissolvait. En fait, c'est le piège malthusien d'une certaine manière. L'humanité, pendant la majorité de son histoire, a vécu dans ce qu'on appelle une économie de la pénurie, avec des disettes, etc. Et la modernité, pour Nick Land, c'est précisément la rupture. C'est le moment où le taux de croissance économique dépasse l'augmentation de la population, donc il y a une forme d'accélération économique qui permet une échappée hors de l'histoire normale. Ça, c'est la révolution industrielle qui le permet avec une amélioration constante du niveau de vie depuis lors. Et Nick Land va prendre le contre-pied lui aussi du récit progressiste, puisque si on écoute le récit progressiste, si on fait attention à lui, l'idée est. On connaît ça par cœur, hein, qu'au 19e siècle, les conditions de vie, par exemple, des ouvriers étaient très, très mauvaises. Et il y a eu toutes sortes de mouvements sociaux à l'époque, le socialisme en particulier, qui ont mené toutes sortes de luttes progressistes pour améliorer le niveau de vie général. Et c'est de ces luttes progressistes que la condition de vie des classes populaires ou de la population en général a augmenté pour être ce que nous avons aujourd'hui. Or, en fait, Nick Land va nous dire que c'est précisément l'inverse, que ce n'est pas du tout à des revendications politiques et sociales que nous devons l'augmentation du niveau de vie, mais tout simplement de ce qu'il appelle la machine technocapitale. Et même, d'une certaine manière, que les combats progressistes, loin d'être la cause de l'amélioration du niveau de vie, est un cancer qui se greffe sur la machine technocapitale.
Voilà, qu'elle a ralenti, quoi.
Et qu'elle la ralentit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une force
sur un mode anthropique,
anti-accélérationniste.
quoi, ouais.
Exactement. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, on pourrait comparer la compréhension landienne du capitalisme à celle de Karl Marx. Très rapidement. Marx, en bon disciple de Hegel, a une lecture dialectique de l'histoire. Donc, dialectique de l'histoire. C'est l'idée qu'une thèse engendre une antithèse, qu'il y a une synthèse qui surgit là. Donc, si on prend dans le capitalisme, par exemple, Marx va saluer l'aspect révolutionnaire du capitalisme. Le capitalisme révolutionne constamment le mode de vie, les modes de production, etc. Néanmoins, le capitalisme porte en lui-même sa contradiction, c'est-à-dire que en augmentant la productivité, il accroît aussi le paupérisme, la pauvreté des masses, qui donc commence à s'organiser en syndicats pour lutter contre les patrons qui extorquent la plus-value, etc. Et dans le même temps, les capitalistes construisent des monopoles de plus en plus grands, qui, in fine, ne demandent plus qu'une chose, c'est d'être renversés pour être collectivisés, puisque ce sont des monopoles. Donc le capitalisme porte en lui-même sa résolution ultime, qui sera le communisme. Donc le capitalisme est voué à disparaître de son propre développement. Ça, c'est la compréhension dialectique marxiste. Or, pour Land n'a pas une lecture dialectique, mais il a plutôt une lecture cybernétique. Cybernétique, c'est les systèmes d'information, avec des boucles de rétroaction, etc. Et pour Land, le capitalisme est un circuit de rétroaction où deux processus se nourrissent mutuellement, à savoir la commercialisation et l'industrialisation. La commercialisation, c'est la mise en marché. Donc, il y a de plus en plus d'activités qui sont traduites en prix, en contrats, en concurrence, etc. Et l'industrialisation, c'est l'augmentation de la productivité, plus de machines, plus d'énergie, plus de procédés, etc. Et en fait, ces deux phénomènes ne se contentent pas de coexister, ils s'auto-renforcent. Plus le monde est mis en marché, plus la compétition impose l'efficacité productive, et plus l'efficacité productive augmente, plus elle élargit les marchés, elle multiplie les échanges, etc. Donc c'est un circuit de rétroaction positive où commercialisation et industrialisation se stimulent mutuellement dans un processus d'emballement.
Tu précises aussi que Land est influencé par les écrits de Gilles Deleuze et Félix Guattari, avec notamment cette idée de déterritorialisation, je vais y arriver, donc qui correspond à une, ce qu'on peut constater, une dissolution des formes héritées, des fixités en tout genre, quoi, un phénomène donc, qui est lié justement à ce développement du capitalisme.
Exactement, et donc le capitalisme est une force déterritorialisante.
Voilà.
effectivement, parce qu'elle brise de plus en plus tous ses attachements locaux, enracinés, etc. Et donc, en fait, l'accélération n'est pas le fruit du hasard. L'accélération est consubstantielle à la machine technocapitale qui va toujours plus vite et ce, de manière exponentielle. De toute façon, il suffit de voir les développements techniques de l'histoire de l'humanité. Spengler lui-même l'avait dit, c'est-à-dire que dans L'homme et la technique, il dit qu'à partir de la révolution néolithique, là où des milliers d'années, d'une certaine manière, comptaient pour rien, à partir du néolithique, il y a des siècles qui valent autant que certains millénaires. Et bien à notre époque, on a des décennies qui valent autant que des siècles. Quand on regarde le progrès technique que l'humanité a accompli depuis le 19e siècle à nos jours, c'est proprement faramineux et c'est probablement bien plus important que depuis la néolithique à la révolution industrielle. Donc on a une machine qui s'emballe et qui va de plus en plus vite. Ça, c'est... Je t'en prie.
Voilà, non, je vais te dire, bon, alors comment, en fin de compte, Land perçoit-il cet accélérationnisme ? C'est un phénomène positif, bon, c'est un phénomène presque qui est lié à la fatalité. Il y a une sorte de fatalité de cet accélérationnisme, mais comment le conçoit-il ? Comme un phénomène positif qui peut accoucher d'autres choses ?
Alors, c'est un peu ambigu. Je dirais tout d'abord qu'il y a quelque chose de purement descriptif chez Land, c'est-à-dire qu'il nous dit c'est comme ça que ça fonctionne, c'est une machine qui marche d'elle-même, et donc que vous aimiez ou non, c'est ainsi que ça fonctionne. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi une véritable fascination chez Land pour cette machine technocapitale, puisque il a des phrases, alors il y a toujours quelque chose de provocant chez lui, mais presque religieux, c'est-à-dire que finalement, c'est l'homme qui est au service de la machine technocapitale. Et en fait, pour Land, nous n'avons pas le choix que d'aller vers l'accélération, car si nous n'allons pas vers l'accélération, en fait, nous allons vers notre propre destruction. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a cette machine technocapitale qui avance de plus en plus vite, mais cette machine permet aussi le cancer qui est, grosso modo, la démocratie. Pourquoi ? Parce que le niveau de vie augmente de plus en plus. Donc, le niveau de vie augmentant de plus en plus de gens se permettent d'avoir le luxe de réclamer davantage pour eux-mêmes. Et le régime démocratique, comme l'avait montré Hoppe, fonctionne sur une espèce de grande concurrence vers toujours plus d'avantages sociaux. C'est ce qu'avait montré Carl Schmitt aussi avec l'État total par faiblesse, c'est-à-dire que l'État démocratique devient de plus en plus fort, de plus en plus gros, de plus en plus obèse, parce qu'il est sollicité de toutes parts, par toutes les branches de la société qui veut capter une part du gâteau sans forcément être dans la production elle-même. Et donc, il y a un parasite qui produit un ralentissement au sein même de la machine. Alors, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est pas mauvais. Si on a peur de l'accélération, bien, célébrons vite la démocratie qui permet de ralentir la locomotive.
Ouais, de freiner. Ouais.
Oui, mais il y a quelque chose d'effrayant, néanmoins, dans cette accélération. Là, je pense que Nick Land a tout à fait raison, et Spandrel prend ça aussi. C'est que la modernité est en train de tuer le type anthropologique qui l'a fait naître. Et ça se voit, par exemple, dans la chute démographique absolument vertigineuse qu'on voit à l'œuvre dans tout le monde développé. Plus le monde se développe, moins les gens font d'enfants. Et donc, d'une certaine manière, nous perdons le potentiel humain capable de porter la machine technologique. Et à un moment donné, si nous n'avons plus le matériel humain capable de la porter, tant que la machine n'est pas devenue autonome, tant qu'elle n'a pas atteint la singularité, eh bien, tout va s'effondrer et nous allons retourner à l'âge de pierre, concrètement. Spandrel avait inventé une notion intéressante, il avait appelé ça les IQ shredders, les déchiqueteurs de QI, pour parler de ces modèles de Curtis Yarvin, d'une certaine manière, alors pas modèle idéal, mais ce qui ressemble plus à ce que prône Curtis Yarvin dans le monde actuel, c'est-à-dire ces régimes autoritaires libéraux que sont
voilà,
Singapour,
voilà,
Dubaï,
Singapour,
etc.
Dubaï, voilà, c'est ces États, ces entités. D'ailleurs, Yarvin a des mots très cruels sur Singapour, justement, où il dénote justement cette absence de fécondité, à tout point de vue, quoi, que ce soit
voilà,
intellectuel
c'est ça le problème, c'est que
biologique.
Singapour pourrait être un modèle pour l'anorexion, elle l'est dans une certaine mesure, mais on voit que Singapour attire à elle les Indiens les plus intelligents, les Chinois les plus intelligents, des Anglais les plus intelligents, cette espèce d'Eldorado de gens à haut QI qui viennent contribuer à la richesse de Singapour et qui viennent eux-mêmes profiter de ce système bien libéral, sauf qu'ils n'y font pas d'enfants. Et donc, en fait, Singapour est un déchiqueteur de QI, dit Spandrel.
Oui, c'est stérile en fait ce phénomène bon, qui finit
Exactement.
par devenir stérile quoi. Alors l'heure s'écoule encore inexorablement. Hein, je crois qu'il va falloir mettre une petite dose d'accélérationnisme dans nos propos, mon
Très bien.
cher Antoine. Donc tu évoques effectivement dans ton analyse de ce phénomène un dernier concept bon qui aussi a plusieurs corollaires. Donc le concept de néo-royalisme libertarien. Et dans ce concept, tu parles de bon la théorie, tu évoques la théorie néo-caméraliste de Yarvin, ainsi que des notions comme les notions de patchwork et d'exit. Alors, je te demandais s'il y a on va dire une vingtaine de minutes maximum, tu peux essayer de, enfin même une quinzaine de minutes, tu peux développer ça. Et ensuite, nous terminerons par un petit peu l'impact que peut avoir cette vision du monde en quelque sorte néo-réactionnaire en Europe en particulier. Et qu'est-ce que nous, quelles seront les critiques et les réserves positives que nous pourrons lui apporter?
Bon, ben je vais essayer d'être le
Voilà,
plus expéditif possible
voilà,
alors.
s'il te plaît.
Donc là, les auditeurs ont déjà à leur disposition toute une armature idéologique pour comprendre ce qui va suivre. Donc je vais me permettre d'aller plus vite. Ils auront compris que pour Curtis Yarvin, le problème central, c'est la cathédrale qui fausse les jugements et la pratique de la démocratie. Yarvin ne s'en tient pas à une critique négative, il veut proposer quelque chose. Et sa proposition, c'est ce qu'il a appelé, tu l'as dit, le néocaméralisme, qui fait référence au caméralisme de Frédéric II de Prusse. Et le néocaméralisme de Yarvin est quelque chose de tout à fait étonnant, qui a, selon moi, quelque chose d'un peu farfelu et en même temps quelque chose de brillant et de stimulant. C'est-à-dire que il va comparer la pratique du gouvernement de Californie, par exemple, avec le pouvoir d'un Steve Jobs dans son entreprise, dans Apple. Et il va montrer que Steve Jobs est infiniment plus efficace dans son entreprise que le gouverneur de Californie. Pour une raison bien simple, le gouverneur de Californie ne peut pas tout décider. C'est-à-dire que s'il veut changer quelque chose dans son État, il y a un nombre quasi infini de médiations entre lui et l'action politique. Il y a des contre-pouvoirs, il y a des bureaucraties, etc. Et il n'a pas le champ libre. Steve Jobs, au contraire, s'il veut changer de fond en comble son produit, il arrive à son entreprise et il change tout d'un coup. Et en fait, ça va être le modèle de Curtis Yarvin. Curtis Yarvin va d'une certaine manière dire que les États seraient beaucoup plus efficaces s'ils étaient régis comme une entreprise. Avec le modèle de Steve Jobs dans Apple. Donc il y a le PDG, le CEO, et un conseil d'administration à qui le CEO doit rendre des comptes uniquement. C'est-à-dire que, effectivement, si le CEO ne remplit pas sa tâche et que l'entreprise fait faillite, eh bien, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Eh bien, Yarvin propose une structure similaire pour l'État. Il faudrait une sorte de roi monarque, de roi PDG, de CEO monarque, qui n'aurait de compte à rendre qu'à un conseil d'administration en fonction de son efficacité. Et ce modèle est accouplé à cette notion de patchwork, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que Curtis Yarvin est un libertarien à l'origine. Ce qui l'intéresse aussi, c'est la liberté des individus. Et il propose une forme de patchwork, donc d'assemblage de micro-entités qui, en fait, pourraient avoir le régime politique qu'elles souhaitent tant que les gens ont le droit à l'exit. L'exit, c'est la sortie. Et donc, il y aurait une sorte de concurrence des juridictions sur un très grand territoire. Imaginons, en fait, une espèce de Saint-Empire romain germanique, mais au XXIe siècle, donc le Saint-Empire, qui est un grand ensemble dans lequel il y a toutes sortes de principautés, des ducs, des comtés, de tout ce que vous voulez. Mais là, ce serait un peu pareil. Il y aurait le grand territoire américain, par exemple, et chaque État, et encore les États sont très grands, donc les États seraient morcelés, et chaque juridiction, certains auraient une politique beaucoup plus socialisante, une autre politique beaucoup plus libertarienne, etc. Et en fait, les juridictions les plus efficaces attireraient mécaniquement plus de gens chez elles. C'est-à-dire que si la juridiction s'appauvrit à cause d'une politique idiote, ben vous avez le droit de partir ailleurs. Et donc, mécaniquement, cette concurrence, cette libre concurrence des juridictions et des entités politiques rehausserait le niveau général, puisque les gens seraient conduits à ne pas pratiquer des politiques trop stupides ou trop débiles, puisqu'il en irait de leur propre pouvoir, d'une certaine manière. Et ce que Yarvin veut réintroduire là-dedans, c'est l'idée de sanction. Dans le régime démocratique, nos gouvernants n'ont aucune responsabilité. Ils peuvent faire une très mauvaise politique, ils arrivent à la fin de leur mandat, ils repartent, et ils n'ont pas de compte à rendre sur le fait d'avoir appauvri ou non le pays, d'avoir désarmé le pays face à un ennemi, d'avoir détricoté les structures traditionnelles, etc. Ils s'en fichent. Alors que s'il y a la sanction à la fois du conseil d'administration et très concrètement de la population qui décide de partir ou de s'installer chez vous, eh bien, pense Yarvin, ça réintroduirait l'efficacité dans notre modèle politique.
Et tu sais, tu vas me dire encore peut-être que je mets du Guillaume Fay à toutes les sauces, mais bon, tu as lu comme moi la nouvelle qui clôt l'archéofuturisme, et on avait déjà discuté bon, plusieurs fois de cet univers qui n'était pas nouveau pour lui, hein, cet univers de la Fédération 113 provinces qu'il avait développé notamment dans ses sonoramas avant-guerre, dans la bande dessinée du même nom. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit aussi une entité qui rappelle donc une sorte de Saint-Empire romain germanique version archéofuturiste, avec différentes entités, hein, des villes libres, des petits royaumes, des principautés, etc., qui sont libres de quitter la fédération si jamais il y a des désaccords, de cette manière, et tout ce petit monde est dirigé par une élite qui est issue d'une firme géante, la firme Typhoon. Donc là, bon, bien sûr, je ne pense pas que Yarvin ait lu Fay à cette époque-là, surtout que, bon, en
Non,
plus,
je
il
pense
n'était pas
pas.
traduit, mais curieusement, après, bien sûr, pour Fay, ces élites dirigeantes bon, ne sont pas soumises, si vous voulez, ne sont pas issues, hein, de cette vision du monde bon, utilitariste et économiste, hein, qui, en fin de compte, montre en fin de compte, une intrusion de la troisième fonction dans le politique, qui ressort avant tout de la première. Bon, c'est typiquement anglo-saxon, hein, comme on l'a montré, hein, c'est un héritage de l'utilitarisme anglo-saxon, et puis ensuite de toutes ces déclinaisons que nous avons plus ou moins abordées. Mais quand même, c'est assez curieux de voir ces parallèles qu'on pourrait faire. Et c'est pour ça que certains, bon, on va y venir peut-être dans quelques minutes, bon, font des parallèles aussi entre certaines visions de la néo-réaction avec justement les visions relative à la technique que Guillaume Fay avait développée. Mais termine, si tu veux bien, ton propos, hein, concernant
Oh,
ce...
je
Toi,
pense que j'ai dit
tu as dit
l'essentiel.
l'essentiel, hein, je crois,
Oui,
ouais.
on pourrait raffiner, mais comme tu voulais avancer, je pense que là, au moins, c'est l'essentiel pour que les auditeurs comprennent,
Non.
ces deux
Ce que
notions.
je pourrais peut-être, je pense qu'il serait intéressant de signaler très rapidement, c'est bon, il y a d'autres aussi figures de cette néo-réaction, que notamment Miranda, dans son bouquin, avait signalé, hein, tu as signé Sprandrel, hein, il y a Bronze Age Pervert, ou Lovecraft, je ne sais plus l'autre, il y en a un qui s'appelait... Qui...
Zero HP Lovecraft,
Voilà, bon,
que je connais moins bien.
accrochez-vous bien. Mais Miranda a signalé qu'il y a aussi un impératif qui revient chez ces trois penseurs à des degrés divers, c'est l'impératif ethnobiologique, quoi, avec l'idée aussi d'eugénisme, donc des thèses qui les rapprochent d'ailleurs du nationalisme blanc, hein, en partie, d'une certaine manière.
Tout à fait. Je dirais d'ailleurs que Spandrel, lui, est beaucoup plus proche du nationalisme blanc que les deux autres. Alors, il y a une autre notion dont on n'a pas parlé. J'en ai parlé plus en détail dans une vidéo que j'ai faite sur les néo-réactions. C'est la notion de trichotomie. C'est-à-dire que, et ça, c'est une notion assez intéressante, c'est l'idée que la néo-réaction, on pourrait dessiner trois branches, trois courants au sein de la néo-réaction, qui seraient, pour faire très vite, les traditionalistes, généralement catholiques, mais pas forcément, mais traditionnalistes catholiques. Les techno-commercialistes, Nick Land, hein, clairement, et les ethno-nationalistes. Spandrel sera un ethno-nationaliste. Je note entre parenthèses que pour moi, cette trichotomie est vraiment un concept stimulant et qui n'est pas propre uniquement à la néo-réaction. Elle me fait penser aux trois courants de la révolution conservatrice allemande, avec les Völkisch,
Tout à
les
fait, ce
jeunes
que j'allais te dire, tu vois,
conservateurs
effectivement. Ouais.
Quel est le nom? Et les nationaux révolutionnaires. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, ou même d'une certaine manière, avec les trois droites françaises de René Raymond, bonapartiste, orléaniste et légitimiste. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez pérenne là-dedans.
Et si on poussait beaucoup plus loin, à la fois bon, dans l'hypothèse et dans le temps, on peut penser aussi d'une certaine manière hein, au modèle tripartitionnel indo-européen, quoi.
Oui,
Trifonctionnel. Ben,
d'ailleurs,
voilà.
la comparaison est faite hein,
Ouais.
par des auteurs néo-réactionnaires qui amalgament justement ces trois courants ou trois fonctions indo-européennes. Je trouve que c'est globalement assez juste. Et donc, Spandrel, effectivement, Spandrel, donc on connaît très peu de choses sur lui. On sait juste que c'est un Européen vivant en Asie. Et lui, il a effectivement tout un raisonnement beaucoup plus fort sur... la biologie, les rapports ethniques, etc. Il est l'auteur d'une notion pour moi clé qui s'appelle le bioléninisme. Bon, ça nous emmènerait assez loin. Bronze Age Pervert, je connais un peu moins aussi. D'ailleurs, j'étais un peu surpris en fait que Arnaud Miranda le considère comme un néo-réactionnaire. Pour moi, à l'origine, c'était quelqu'un qui vient lui aussi de la galaxie Internet, mais je ne l'avais pas immédiatement amalgamé à ce courant. À ma grande surprise, Curtis Yarvin a dit beaucoup de bien de lui en le voyant presque comme son alter ego, alors que je vois quand même beaucoup de différences entre Bronze Age Pervert et Curtis Yarvin. Mais Bronze Age Pervert, effectivement, a tout un discours qui dénonce les bugmen, les hommes mouches, les hommes insectes, qui est une forme de reformulation en fait, de l'Untermensch nietzschéen.
Alors, pour terminer, ben, comme je le disais tout à l'heure, ben, venons un petit peu à l'impact que peut avoir cette constellation hein, donc, dans la pensée alternative, radicale ou identitaire européenne. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé du travail d'édition qu'a fait Julien Rochedy pour essayer de
Oui.
populariser cette pensée à travers les trois livres qu'il a édités, dont le traité néo-réactionnaire de Nîmes. On sent que Rochedy est très intéressé, voire séduit par certains aspects de cette pensée. Bon, il y a la particularité du site Rage Culture et quelque chose qui a échappé au radar d'Arnaud Miranda. Il y a aussi nos camarades italiens, hein, nos camarades d'avant-garde italienne, qui, je l'avais déjà signalé dans d'autres émissions, ont publié une revue qui s'appelle Prometeica, hein, qui est intitulée Revue d'études sur le surhumanisme, la technologie et l'identité européenne. Ils ont également édité, donc, bon, la revue est éditée en italien, mais il y a quand même un recueil d'articles qui a été édité en anglais, disponible sur Amazon, intitulé Italian Vanguard, Ideas for Future Predators, hein, donc l'avant-garde italienne des idées pour les prédateurs de l'avenir, du futur, ainsi que le premier numéro de la revue Prometeica, qui est aussi disponible en anglais. Et dans ce numéro, on trouve justement un article de Francesco Bocco, qui a publié d'ailleurs récemment chez un éditeur que nous aimons beaucoup, Passaggio al Bosco, un essai intitulé Accélérationnisme hérétique. Et dans cet ouvrage, ce premier numéro de Prometeica, Bocco également, donc écrit un article extrêmement intéressant où il cite relativement favorablement la notion enfin, le concept d'accélérationnisme et les travaux de Nick Land. Et c'est répété dans plusieurs articles également des 7 numéros sortis à ce jour de cette revue. Donc, selon toi, bon, on sait que Prometeica aussi sont très influencés par la chaotique Guillaume Fay, surtout bon, l'œuvre également de Giorgio Locchi, qui nous est chère et dont nous avons déjà parlé dans le cadre de cette émission. Donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous de reprendre, ou du moins bon, de faire notre dans cette vision du monde qui a même, comme tu l'as quand même rappelé, reste très anglo-saxonne, quoi.
Oui. Eh bien, en fait, c'est intéressant que tu cites nos camarades italiens, justement, puisque je ne les qualifierais pas de néo-réactionnaires. Je dirais qu'eux sont surhumanistes, archéofuturistes, prométhéens, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, ils s'inscrivent vraiment dans cette lignée, dans cette filiation surhumaniste. Alors, Francesco Bocco
Boco,
s'intéresse à l'accélérationnisme. Je pense que Shanka aussi, très probablement, comme nous autres. Personnellement, moi-même, je me situerais beaucoup plus proche de cette filiation surhumaniste dont l'origine est à remonter chez Nietzsche, Révolution conservatrice allemande, Giorgio Locchi, etc. Et toi aussi, hein, je
et
pense.
tout à fait, tu sais bien que je ne veux pas te démentir à ce niveau-là.
Voilà, donc
Et pas
néanmoins, donc, je pense que ce sont des traditions différentes. Je ne pense pas faire injure ni à l'un ni à l'autre à dire que la néo-réaction et le surhumanisme sont des traditions différentes, ont une matrice un peu différente, d'où d'ailleurs la critique que Nîmes de Rage Culture avait adressée à l'archéofuturisme. Pour autant, il y a des ponts qui peuvent être faits et il peut quand même y avoir des choses tout à fait intéressantes à reprendre dans la néo-réaction et probablement vice-versa. D'ailleurs, nous ne l'avons pas dit ou pas suffisamment dit, je tiens quand même à saluer vraiment tout le travail qu'a fait Nîmes et le site Rage Culture pour la propagation, pour la découverte de cette école de pensée en France. Je pense que vraiment la connaissance que nous en avons ne serait pas la même sans leur travail depuis plusieurs années. Donc, quoi qu'on pense de ce courant, vraiment, je pense qu'il faut
les...
Non,
mais là, moi, je crois que j'encourage nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil, parce que vraiment, c'est stimulant. On peut pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, ça introduit un débat constructif. Hein, et souvent, c'est extrêmement stimulant, de cette manière. Moi, franchement, on ne perd jamais son temps à aller faire un petit tour là-bas, et on voit des connexions qui peuvent s'établir aussi. Hein, voilà,
Exactement, et donc je pense déjà que la première vertu, parce que tu me demandais ce que la néo-réaction peut nous apporter à nous autres, européens, identitaires, du XXIe siècle, bon, déjà, c'est une sortie des ronrons dominants, et y compris des ronrons de notre propre camp. Puisque,
tout à fait, oui, effectivement.
Tout camp politique produit sa propre doxa, produit sa propre sclérose, etc. Et bon... Moi, personnellement, je suis un grand lecteur même de la tradition réactionnaire européenne, Joseph de Maistre, Edmund Burke, etc.
Mais tu auras consacré pas auteurs... mal de vidéos, de toute façon. Hein.
J'ai consacré beaucoup de vidéos sur eux, mais ce sont des auteurs qui ont leur propre tradition et leur propre réception en Europe. Et cette tradition est tellement ancrée dans la droite européenne que parfois on en oublie même ce qui est original chez eux. Et donc, redécouvrir nos auteurs sous la plume d'Américains du XXIe siècle a quelque chose de rafraîchissant, puisque ces Américains découvrent ce qu'il y a de profondément actuel chez nos auteurs que nous avons tendance à oublier ou à traiter comme des figures sacrées, tout en oubliant leur côté vraiment provocant. Donc, rien que pour cela, la néo-réaction, s'intéresser à la néo-réaction relève de l'hygiène mentale et de l'hygiène intellectuelle pour nous obliger à remettre certaines de nos positions au goût du jour. Voilà la première. Et ensuite, tous les thèmes dont on a parlé déjà lors de cette émission sont... Alors, les thèses de Nick Land sont probablement les plus radicales et les plus discutables au sens littéral du terme, dont il faudrait discuter. Et pour le temps qu'il nous reste, c'est probablement pas sur ce point que j'attaquerai, mais en tout cas, par exemple, tout l'aspect inéluctable du développement technocapitaliste chez Land est à discuter surtout du point de vue surhumaniste, et c'est peut-être la critique que je ferai, mais je n'ai pas encore lu son livre, bon, je ne suis pas assez bon en italien, mais à Francesco Bocco qui a écrit Accélérationnisme hérétique. Hérétique sous-entend qu'il est hérétique dans la tradition accélérationniste. Or, je pense qu'il est d'abord surhumaniste et qu'il s'intéresse à des thèmes accélérationnistes, et donc je pense justement que toute la notion d'histoire ouverte, de conception ouverte de l'histoire, de liberté historique de l'homme, etc., diffère de l'approche landienne. Donc là, ça pourrait donner lieu à des débats tout à fait passionnants. Et pour ce qui est de l'apport de Yarvin, j'ai parlé du néocaméralisme. Personnellement, je ne suis pas convaincu par la comparaison entre un État, entre un pays et l'entreprise. Pour moi, ce sont deux régimes différents.
Mais nous sommes d'accord, de toute façon, voilà, c'est pas notre
comparer un pays à une entreprise est quelque chose de très réducteur, et y compris dans la tradition libertarienne elle-même, on contestait cela. Friedrich von Hayek lui-même disait qu'un pays n'était pas une entreprise, donc je ne suivrai pas Yarvin là-dessus. Pour autant, il y a quelque chose de stimulant dans sa comparaison, parce qu'elle nous rappelle quand même que l'efficacité est une vertu. C'est-à-dire que nous sommes un peu trop habitués à ce que nos régimes soient sclérosés, soient complètement lents, soient obèses. Et donc, même si la comparaison entre Steve Jobs et l'État de Californie est quelque chose de réducteur, je le répète, elle nous rappelle quand même qu'il faut qu'il y a un assainissement à faire de nos régimes démocratiques. Et rien que pour cela, c'est déjà extrêmement important.
Mais tu me permets de faire la transition avec mes recensions du mois, et on va revenir d'ailleurs à toi, comme je l'ai précisé en début d'émission. Tu parles justement, moi, de la nécessité pour nos régimes d'être efficaces, de faire preuve aussi de décisionnisme, Et s'il y en a un qui a popularisé cette notion à travers justement l'œuvre de Carl Schmitt et de beaucoup d'autres, comme Max Weber et ainsi que d'autres figures, c'est bien Julian Freund. Et alors, j'ai le plaisir de signaler la parution aux éditions des Parèges, un petit éditeur donc de Metz, un éditeur messin, donc d'un volume qui rassemble les actes d'un colloque qui s'est tenu le samedi 29 mars 2005 en hommage à Julian Freund, donc cette figure, ce philosophe du politique aussi qui nous est cher, et qui t'a énormément inspiré, comme moi et comme aussi des Guillaume Fay et beaucoup d'autres personnes qui font partie un petit peu de notre mouvance, de notre héritage intellectuel. Donc vient de paraître ce volume intitulé « Julian Freund, résistant, philosophe et penseur pour notre temps » avec cinq communications, dont une de Chantal Delsol, qui fut une élève de Julian Freund, ainsi que de Francis Grandhomme, Geronimo Molina Cano, Laurent Fédy et Pascal Intermeyer. Voilà, donc ces actes ont été réunis par l'éditeur Sébastien Wagner, que je salue amicalement à cette occasion, et que je conseille vraiment pour nos auditeurs. Et on a aussi un petit cahier aux photographies tout à fait sympathique, donc sur cet auteur qui fut longtemps un compagnon de route également de la Nouvelle Droite, et qui a publié énormément d'articles, notamment dans le cadre de la revue Nouvelle École ou Éléments, et il existe aussi plusieurs volumes qui sont publiés par la Nouvelle Librairie, auxquels je renvoie nos auditeurs. Alors, nous parlions de néo-réaction, avec cet aspect aussi techno-futuriste, techno-fasciste dirait ses détracteurs, mais là aussi l'actualité nous offre de curieuses coïncidences avec la parution récente des Cahiers de la Marge. Les Cahiers de la Marge sont donc des cahiers en hommage à certains auteurs publiés par les éditions Nouvelle Marge. Ils avaient consacré un premier cahier dédié à l'œuvre d'André Suarez. Il récidive avec un cahier consacré pour commémorer, si je puis dire, le 10e anniversaire de la disparition au trublion de la littérature et de la pensée, Maurice G. Dantec, voilà, dont certains auditeurs peuvent peut-être se souvenir à travers son œuvre romanesque et ensuite son œuvre polémique, qui a quand même mis le feu, a allumé plusieurs incendies dans les débats politiques et intellectuels d'il y a presque une vingtaine d'années. Donc moi j'avais découvert cet auteur avec son fabuleux Babylon Babies. Il avait écrit d'autres ouvrages précédemment, donc il était publié chez Gallimard Lanoir à l'époque. Voilà, c'était des thrillers un petit peu cyberpunk, donc un univers futuriste, chaotique et parfois assez déjanté. Donc là on a un cahier qui est dirigé par Maximilien Frisch et Sylvain Gauthier, avec plusieurs collaborations de figures, d'écrivains, de lecteurs, qui rappellent à quel point ils ont pu être marqués à divers degrés par l'œuvre de Dantec. Il y a aussi un entretien inédit qui avait été archivé par Juan Asensio, que certains auditeurs connaissent. On a des noms familiers comme Luc Olivier Dalganche, comme Marc Obregón, comme Romaric Sangars, Marc Alpozzo et beaucoup d'autres. Donc pour ceux qui avaient lu Dantec comme moi, qui se souviennent de lui, même si après, moi personnellement, je ne l'ai pas toujours suivi dans son atlantisme débridé post 11 septembre, et puis aussi une forme de catholicisme technologique et mystique qui fut le sien dans ces dernières années, et des ouvrages qui devenaient de moins en moins lisibles après ces laboratoires de catastrophe générale. Donc je renvoie quand même ce cahier de la marge consacré à Maurice Dantec, donc dirigé par Maximilien Frisch et Sylvain Gauthier aux éditions Nouvelle Marge. Et puis pour terminer en beauté ces recensions, mon cher Antoine, je vais te mettre à nouveau à contribution pour évoquer toi, ton petit dernier, celui que l'ouvrage que tu viens de traduire et de préfacer aux éditions Crisis à Nouvelle Librairie, et qui là aussi est consacré à un auteur phare de notre mouvance que je viens d'évoquer en parlant de Julian Freund, dont l'ouvrage n'est autre que Romantisme politique de Carl Schmitt. Or là tu as pratiquement 5-6 minutes pour présenter cet ouvrage et nous dire en quoi il représente un intérêt et une particularité dans l'œuvre de Schmitt. Je crois que cet ouvrage avait été partiellement traduit, la traduction n'était pas forcément à la hauteur de son contenu, il y a pratiquement un siècle. Donc nous t'écoutons, mon cher Antoine.
Oui, effectivement, c'est une traduction presque inédite de ce livre de Carl Schmitt, car il y avait eu une première traduction, effectivement, il y a un siècle, je crois qu'elle date de 1928, donc presque un siècle, mais une traduction qui bon, avait ses mérites, mais était quand même très fautive. Donc il s'agit effectivement d'un des premiers ouvrages de Carl Schmitt. Carl Schmitt avait la première édition du livre date de 1919, qui a été complétée par une seconde édition en 1925. C'est un ouvrage qui passe généralement un peu en dehors des radars, parce que quand on pense à Carl Schmitt, on pense à la notion de politique, au nomos de la Terre, tous ces grands ouvrages de politique. Et là, on a un premier ouvrage, un de ses premiers ouvrages, dans lequel le thème, il est question de politique, romantisme politique, mais il est surtout question du romantisme. Et on se demande un peu ce que ça vient faire sous la plume de Schmitt, qui nous parle de Schiller, de Adam Müller, de Friedrich Schlegel et de toutes sortes d'autres romantiques allemands, pas toujours très connus du public français. Et donc, pendant longtemps, enfin pour beaucoup de commentateurs français, c'est un ouvrage qui est intéressant, mais qui marque un peu la fin justement de la période de l'esthète que fut Carl Schmitt pour passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, dans l'excellente biographie de David Kumin, par exemple, sur Carl Schmitt, qui est une biographie que je recommande, qui est
Oui,
un excellent
que j'ai dans
travail,
ma bibliothèque, hein, tout à fait.
je pense que, si je me souviens bien, l'auteur ne consacre pas plus d'une page et encore au livre Romantisme politique de Schmitt. Et pourtant, c'est selon moi un livre extrêmement important, beaucoup plus important qu'on ne croit, car il participe. Probablement de la prise de conscience de Schmitt de la nature du politique qu'il ne va cesser de raffiner tout au long de son œuvre. Et puis en fait, Schmitt est fidèle à lui-même déjà dès l'une de ses premières œuvres, c'est-à-dire que Schmitt est un auteur qui fonctionne, qui est un maître dans l'art des distinctions. Qu'est-ce qui fait la nature du politique par rapport à l'économique, par rapport à la morale, par rapport à l'esthétique, etc. Et d'une certaine manière, on a ce premier travail dans le romantisme politique. Il va montrer que la politique et l'esthétique, l'esthétisme sont deux choses très différentes, et il le montre à partir de ce cas qu'est le romantisme. Et le romantisme, c'est très intéressant parce qu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, le romantisme, l'appréciation du romantisme était vraiment un grand débat à droite en France et en Allemagne. En France, on a vraiment l'anti-romantisme maurrassien, qui voyait dans le romantisme le produit de Rousseau, de l'individualisme, du sentimentalisme, etc. Donc la droite française maurrassienne était très anti-romantique, là où la droite allemande, au contraire, valorisait le romantisme allemand, puisque le romantisme allemand, c'était une forme de réaction aux Lumières, à la pensée desséchée universaliste française. C'était plutôt la suite de Herder,
Voilà, de Fichte,
redécouverte.
Herder, voilà.
De redécouverte de la tradition, du folk, du peuple, des langues, du génie des langues, etc. Donc c'est déjà très intéressant de voir que en France et en Allemagne, les deux pays n'avaient pas du tout la même compréhension de ce phénomène. Et donc, Carl Schmitt, en tant que conservateur, homme de droite allemand du début du XXe siècle, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit lui aussi un défenseur du romantisme, et en fait, pas du tout. Donc moi, une de mes hypothèses, c'est que sa critique du romantisme est aussi une critique du conservatisme allemand de son temps. Donc il rejoint d'une certaine manière les positions maurrassiennes, la critique française, mais là où Maurras et les siens faisaient une critique assez morale, le romantisme, c'est la croyance en la bonté naturelle de l'homme, etc., Carl Schmitt va aller beaucoup plus en profondeur et montrer que c'est ce qu'il appelle un subjectivisme occasionnaliste, un occasionnalisme subjectivé. Donc je laisserai les auditeurs voir ce que ça recouvre dans le livre de Carl Schmitt, mais donc c'est pour cela que le livre avait été traduit en français par un éditeur, par Georges Valois, un éditeur proche de l'Action française, mais la première traduction française à l'époque était fautive, il manque tout un chapitre, et en fait le livre avait été charcuté, toutes les références aux romantiques allemands avaient été enlevées.
D'accord.
Donc voilà, cette
Bien.
traduction remplit un vide.
Et écoute, mais nous te remercions en tout cas pour ce travail, hein, qui suscitera l'intérêt, j'espère, de nombreux éditeurs. Je les renvoie également vers le cahier d'études pour une pensée européenne numéro 3, hein, dans lequel ils pourront lire ton article intitulé « La néo-réaction ou le royalisme à l'âge de la tech ». Voilà, donc écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier hein, de nous avoir fait le plaisir et l'honneur une fois de plus d'éclairer nos lanternes sur ce phénomène, donc voilà, assez curieux, assez baroque, hein, très anglo-saxon, mais qui mérite quand même qu'on y porte notre attention et de voir éventuellement bon, voilà, quels en seront les prolongements et qu'est-ce que nous pourrions y trouver, même si bien sûr, bon, n'oublions pas que nous avons une autre tradition politique, métapolitique et d'avant-garde, qui a généré ses propres références et ses propres figures. C'était Pascal Lassalle aujourd'hui à la direction de cette émission sur Radio Courtoisie. Merci Antoine d'avoir été présent. À très bientôt bien sûr. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures métapolitiques. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 4 avril 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 16 mai de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.